Chers amis, sans plus tarder, je vous propose que l'on accueille l'invité politique dans l'émission Backseat cette semaine. Il s'agit de la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. Bonsoir Marine Tondelier.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Secrétaire nationale.
Alors, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, qui s'appelle plus Europe Écologie Les Verts, mais qui s'appelle les... Je comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-moi.
On est un parti qui s'appelle...
Rapprochez le micro, s'il vous plaît, par contre.
Je fais comme ça.
C'est nickel.
Parfait. On est un parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts.
Ça,
tout le monde a compris. Il y a Europe, il y a écologie, il y a les Verts. C'est assez clair.
Jusque-là ?
Aujourd'hui, en 2023, il y a plein de gens qui ne veulent plus adhérer au parti, même plus trop s'en mêler, que ça fatigue tout ça.
À votre parti ou au parti en général ?
En général.
Ah, ok.
Mais il y a de plus en plus d'écologistes. C'est Bruno Latour, qui est un philosophe des sciences de l'environnement, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui parlait de la classe écologique. Il ne dit pas qu'il n'y a plus de classe sociale. Il dit qu'il y a les classes sociales qui continuent, la lutte des classes, tout ça. Mais dans toutes les classes, il y a des gens qui font partie de la classe écolo, qui ont intérêt et envie qu'il y ait une société plus écologique.
Okay.
Et potentiellement, en France, ils sont majoritaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'inventer des gens, de convaincre plein de gens en plus. En fait, ils existent. Mais ils ne sont pas fédérés. Ce n'est pas une classe qui a conscience d'elle-même, comme aurait dit Marx. Donc, comme ils ne sont pas fédérés, ils ne sont pas structurés, ils ne sont pas organisés, alors qu'en face, pour le coup, ils le sont. Ceux qui ne veulent pas l'écologie.
Ok,
ils voient, ils sont organisés, ils ont beaucoup d'argent.
Et c'est quoi le rapport avec le nom du parti, du coup ?
Et donc, il faut créer autre chose qu'un parti politique. Moi, je pense qu'il faut créer un mouvement qui soit un peu plus large, qui ne soit pas que politique. Où chaque personne qui, en France, a l'écologie dans un coin de sa tête, que ce soit des parents ou des grands-parents qui sont inquiets pour leurs enfants, des jeunes qui sont inquiets pour leur avenir, des personnes qui sont des électeurs d'un jour ou de toujours ou qui votent plus d'ailleurs, des gens qui sont émus quand ils se promènent en forêt, enfin voilà, il y a plein de gens potentiellement écolos,
Jean-Hugo
qui
Clément.
Ont forcément un truc à nous dire. S'il veut, il vient, nous c'est très ouvert. Le slogan c'est « Venez comme vous êtes ». Référence à « Come as you are » de Nirvana, évidemment pas à
McDo. C'est pas McDo ?
Non, ils ont volé à Nirvana.
Et vous aussi, vous volez à Nirvana, du coup, pour pas le... D'accord,
non, c'est libre de droit. C'est libre de droit.
Mais en fait, c'est un peu ce que disait Sandrine Rousseau au lendemain du congrès des Verts. Elle disait qu'il fallait dépasser justement le parti et aller vers la société.
Ça fait 15 ans qu'ils disent ça, les écolos.
Non, mais en fait, il y a une vraie réflexion... Là, 2023, on fait autre chose qu'un parti politique. Donc, on a créé un site qui s'appelle lesécologistes.fr. C'est très participatif parce que notre deuxième marque de fabrique, notre troisième après l'Europe et l'écologie, c'est aussi la démocratie. Et donc, on fait un truc assez inédit. C'est que c'est des gens sous le format d'une convention citoyenne qui vont écrire, un peu inventer ce mouvement avec nous. Donc là, on est dans une grande enquête populaire qui dure depuis février, qu'on va prolonger jusque fin août.
C'est ça qui s'appelle les états généraux de l'écologie, sur lequel vous avez été élu à la tête du parti en décembre dernier.
Qui était un projet sur lequel on travaillait depuis un an, notamment avec la maire de Poitiers, Léonore Mokondi, et qui est devenu le projet du parti. Donc, pendant 150 jours, il y a ce site lesécologistes.fr. Vous avez plein de choses. Vous avez un QCM qui se remplit en 7 minutes pour en savoir un peu plus sur les gens. On est en train d'analyser les premiers retours. Par exemple, il y a 3/4 des gens qui répondent n'ont pas du tout envie d'être dans un parti politique. Mais nous disent, par exemple, 48% disent « Moi, ce qui m'intéresse, c'est des formations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'info sur ce qui se passe d'écologistes en France. » Il y en a quand même qui veulent faire des campagnes électorales, être candidat aux municipales. Il y en a qui disent « Mais pas du tout les élections, mais ça m'intéresse de le faire avec vous. » Donc, on est en train de... Vous voyez, les 15 000 qui sont là, si on se mettait dans une pièce, on va dire que la direction, les 15, ce sera déjà pas mal, en créant ce mouvement... Okay. On s'en fout, nous, on est déjà là. Donc, ce n'est pas nous le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que ceux qui ne sont pas encore là, qui ont l'écologie dans un coin de leur tête et qui veulent nous adresser un message, puissent le faire. Il y a des cahiers de doléances aussi, où ils peuvent, par courrier postal, par PDF, par son message vocal ou par vidéo, parce que tout le monde n'est pas à l'aise à l'écrit non plus. Donc, tous ceux qui ont un truc à nous dire, et je suis sûre, là, dans votre émission, dans les auditeurs, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup de choses, beaucoup de monde qui a beaucoup de choses à dire.
Ça fait vachement penser à ce que Macron avait fait avant de se lancer en 2016.
Alors, c'est...
Sur le Tour de France,
la grande marche. La
je pensais que vous alliez parler des cahiers de doléances.
Non,
qu'il a fait dans
encore
le...
avant.
Pendant le.
Encore avant, il y avait à la fois l'aspect on recrute des cadres, on a besoin d'envoyer un peu votre CV, et puis le côté qu'est-ce que vous voulez, en fait, on va vous le faire.
Alors,
tout en numérique et puis en physique aussi.
La différence, c'est qu'à l'époque, ça n'a pas été pris en compte, en fait. Enfin, la démocratie dans La République En Marche, on ne l'a pas trop vue. Nous, pour le coup, on est plutôt des experts de ça. Peut-être que c'est
trop, c'est un peu trop, on va en discuter.
Mais moi, je pense qu'il n'y a jamais trop de démocratie et ce qui se passe en ce moment en France, pour le coup, dans d'autres mouvements, le montre. Donc, on assume complètement ça. Et donc, tous les gens qui vont sur lesécologistes.fr, qui remplissent le QCM, qui font un cahier de lance ou qui laissent juste leur mail, on va tirer au sort dans ces personnes. Des gens sur des conventions citoyennes sur 3 sujets, et c'est eux qui écriront en fait comment on va faire.
Mais parce que l'idée de dépasser l'écologie politique, de rassembler tous les écologistes de France par-delà leur classe, leurs idéologies, etc., c'était déjà, si je me souviens bien, la promesse d'Europe Écologie Les Verts à sa création après les régionales, Europe Écologie à l'époque.
Dans la perspective des Européennes.
La perspective européenne à l'époque. Donc,
on a fait quoi ? On a fait un parti.
Et donc voilà, vous avez fait un parti. Je me souviens qu'à l'époque,
c'était 2009, c'est passé.
Des petits cons comme moi disaient déjà, bah super, vous retombez dans les travers classiques des partis. Mais parce qu'au bout d'un moment, il faut bien présenter des candidats à des putains d'élections. Donc,
c'est pour ça qu'il faut.
Est-ce qu'à un moment, vous n'arrivez pas? Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'au bout du bout, on ne retrouvera pas dans un parti?
Et il faut autre chose. Peut-être qu'il faut les deux. Peut-être qu'il faut un parti dans un mouvement. Peut-être qu'il faut un mouvement et séparer un parti. En fait, ça.
Genre un mouvement avec plusieurs partis?
Ah, ça, c'est encore autre chose. Mais... non, mais on avait fait le pôle écologiste et il y avait déjà plusieurs partis écolos pour le coup. Et c'est pas grave. Moi, je pense que.
Oui, c'est vrai qu'il y a le pôle écologiste.
C'est ça. Et en fait, tout ça n'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est trouver l'endroit où les gens qui ont envie de faire pour l'écologie puissent lever le doigt en disant « Moi, je suis là, j'ai une heure par semaine, j'ai 30 heures par jour. »
Ils vont pas déjà vers les soulèvements de la Terre ou...
La réalité, c'est que, en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui sont partout. Enfin, moi, je vais vous dire, on est aux soulèvements de la Terre, on est dans des assos. Moi, je suis adhérente à plein d'assos, je vais pas citer les noms, mais depuis même avant d'être chez les Verts. La question, c'est que quelqu'un qui est pas... il n'y a pas de guichet unique, tu vois. On dit parfois, il faut l'aller vers, que ce soit pas un parcours du combattant. Celui qui regarde un docu, qui se prend une actu dans la figure, qui a un choc dans sa vie, qu'il a envie de s'engager, il a mille trucs devant lui, il sait pas forcément comment faire. Et la réalité, c'est que c'est pas forcément... Nous, on n'est pas hégémonique dans notre manière de faire. Quand je rencontre je suis en train de voir tous les chefs un peu de grandes assos écolo, je leur dis pas, je veux faire un truc à votre place. Je leur dis, on fait ensemble. Dites-nous, vous, comment vous verriez les choses pour être à l'aise. Par exemple, à FNE, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui reçoivent leur newsletter. Il y a Greenpeace, il y a la Ligue de protection des oiseaux. Et chacun est à son poste, chacun est utile. La question, c'est si moi, je suis écolo, j'aimerais savoir, j'ai une minute dans la journée, je veux signer une pétition, j'ai qu'une minute, c'est quoi le truc cette semaine qui monte, par exemple? Comment on se coordonne mieux aussi?
Claire, toi, tu connais bien notre invité, je crois.
Oui, on se connaît, on a pu militer ensemble à un moment. Et moi, j'avais une question par rapport à l'histoire de l'écologie politique. J'ai l'impression que, en fait, ce qu'a été ELV avant d'être ELV, toute cette histoire-là, ça a été absolument déterminant pour que ces sujets-là soit présent dans le champ politique. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus tout le monde s'empare du terme écologie, et donc il y a une espèce de déclinaison. On a une écologie capitaliste et libérale, qui n'est pas transformatrice, mais ça existe. On va avoir une espèce d'écologie d'extrême droite, très localiste, très repli, etc. Et donc, en fait, la question, c'est est-ce que ça suffit aujourd'hui de dire les écologistes, parce qu'on a aussi des gens comme Hugo Clément qui nous disent que c'est OK, qu'en fait, on va aller parler jusqu'à Valeurs Actuelles ou autres, sous la bannière les écologistes. Donc en fait,
comme Azure,
voilà.
Alors c'est exactement pour ça qu'il faut mettre de la politique dans tout ça et que moi, en général, quand on me dit c'est bon aujourd'hui, l'écologie est partout, je constate qu'en général, plus elle est partout, plus elle est nulle part et que c'est justement un moment où il faut se réemparer aussi du sujet. C'est le moment en fait le plus grave, c'est parce qu'il y a la prise de conscience et donc on se dit c'est bon, tout le monde a compris, donc ça va aller. Et c'est justement le moment où en fait on voit bien, Macron a annoncé aujourd'hui qu'il fallait mettre une pause réglementaire dans les trucs écolos que peut voter l'Europe, c'est-à-dire que la France entière à coup de casserole lui demande de mettre une pause dans la réforme des retraites, lui dit je vous ai compris, maintenant l'Europe vous arrêtez de faire de l'écologie. Enfin c'est absurde et donc oui, c'est dangereux. Après sur l'écologie politique que comportent toutes les deux, moi on a milité ensemble, hein. Moi, j'ai parfois des gens d'extrême droite, vu le territoire où je milite, qui me disaient « Non, mais c'est très bien tout ce que vous dites sur l'environnement, on est d'accord, mais pourquoi vous êtes tout le temps à Calais avec les migrants? C'est quoi le rapport ?» En fait, le rapport, c'est que quand tu es écolo, tu travailles le rapport au vivant, à ton écosystème, et qu'il n'y a pas, dans la hiérarchie, tu ne vas pas dire « Là, il y a les Yorkshire, les bébés dauphins, les bébés phoques, et puis il y a les migrants tout en bas, ça, je m'en fous. » Ça ne marche pas. Il y a une bienveillance collective, une cohérence entre le fond et la forme, par exemple, et puis sur les solutions qu'on propose.
Ouais, et du coup, dans cette spécification du projet politique qui doit arriver après, est-ce que du coup, ça débouche pas quand même sur un arc politique qui correspond à celui dans lequel ELV, c'est-à-dire l'accord avec la NUPES, est-ce que c'est pas cet espace politique que le mouvement des écologistes vient irriguer?
Je pense que Fabien Roussel serait ravi de t'entendre, lui qui rêve de porter l'écologie avec nous. En fait, pour moi, la NUPES, c'est autre chose. La NUPES, c'est une coalition de partis politiques.
Ouais.
On l'a faite pourquoi? Parce qu'il y a eu cet échec majeur de 2022, qu'il y a eu un succès relatif aux législatives, succès parce qu'il y a eu plein de députés, il y en aurait beaucoup moins sinon, relatif parce qu'on a fait tous ensemble, tout mouillé et tous ensemble, 25%. Même les nuls en maths comme moi savent que pour gagner la présidentielle, il va falloir 50%. C'est un vrai problème de la Ve République. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment...
Vous ne pouvez pas comparer les législatives avec la présidentielle, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas la même mobilisation...
Oui, mais c'est quand même un scrutin uninominal à deux tours, c'est le même problème, quoi, et même conséquence. C'est-à-dire
que pas la même participation.
En fait, moi, ce que je trouve...
Demain, je ne vois pas en quoi c'est un problème de devoir faire 50% pour gagner une élection.
Parce que, en fait, dans la Ve République, il y a deux choses à expliquer. Dans la Ve République, on voit bien la présidentielle.
Ouais.
Normalement, c'est l'élection où tout le monde s'y intéresse, c'est l'élection phare. Ouais. Un peu trop, d'ailleurs, ça rend tout le monde fou, même 4 ans avant, je constate. Mais donc, c'est l'élection phare. Et donc, normalement, c'est l'élection à laquelle tout le monde a envie de participer. Mm-hmm. Dans un monde normal, à l'élection présidentielle, quel que soit le mode de scrutin, il faudrait un écolo, un communiste, un socialiste, un insoumis, et puis tous les autres, il y en a plein d'autres aussi. Les gens choisissent ce qu'ils préfèrent, et puis, vous savez, on disait, au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Mm-hmm. On ne peut plus faire ça. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite a tellement monté qu'en fait, au premier tour, on choisit quel sera le candidat contre l'extrême droite. Et donc, dans cette 5e République malade, on est obligé maintenant d'être tous ensemble sous forme de coalition. C'est ce qu'il faudra faire en 2027. Moi, je le dis très clairement, je suis une des seules à le faire. Je veux un ou une, peut-être qu'on va se poser la question, candidate unique pour 2027. Et je ne dis pas le préalable, c'est à condition qu'il soit écolo. Parce que si tout le monde fait ça, en fait, ça n'a pas de sens. Je suis très claire là-dessus, je ne pense pas que tout le monde le soit. Mais par contre, pour moi, je m'en fous d'être au deuxième tour. Et je pense que tous les gens pour qui on se bat, qui votent pour nous ou pas d'ailleurs, parce qu'on se bat parfois pour des gens qui votent plus ou pas pour nous, on se bat quand même pour eux, ils s'en foutent qu'on soit au deuxième tour. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on gagne. On doit gagner, transformer la société.
Il faut passer au second tour.
Il faut passer au second tour, mais ce que je dis, c'est que c'est pas une fin en soi. Quand on va pas choisir le meilleur candidat, le meilleur parti pour être au deuxième tour. On doit gagner et transformer. C'est-à-dire que les qualités requises peuvent être, par exemple, de pouvoir fédérer, dialoguer, apaiser. Enfin, il y a un moment où il faut faire attention à ça. Tout ça, moi, il n'y a pas de problème pendant qu'on en discute sereinement, tout ça. Mais les autres élections intermédiaires doivent être un moment où on va progressivement passer de ce socle de 25, alors peut-être qu'avec une autre participation, il est à 30, tout ça, mais il n'est quand même pas à 50. Oui. Et donc, on a besoin tous de progresser. Une coalition de plusieurs partis, c'est déjà composé de plusieurs partis, parce que je vous assure, j'aime beaucoup Fabien Roussel, on est du Nord tous les deux, on se croise, on s'entend hyper bien, mais on ne porte pas le même projet politique. Moi, j'ai rien contre les communistes. J'espère que les communistes n'ont rien contre les écologistes. On n'est quand même pas d'accord sur tout, et c'est pas grave. Mais donc, dans cette coalition, on est capable de se mettre d'accord sur l'essentiel pour gouverner le pays, mais elle ne progressera que si chaque parti progresse. Et donc, moi, en tant que secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, je fais ma part. J'appelle ça, on cultive notre jardin, et donc on fait en sorte que l'écologie, elle progresse. Mais c'est pas contre les gens d'à côté. Il faut que tout le monde progresse. Et donc, quelquefois, on sera ensemble, comme à la présidentielle. Et puisque je sens le sujet venir, puisque je suis interrogée à peu près toutes les heures dessus. Pour les européennes.
Eh bien non, je n'allais pas parler de ça.
Moi, ah bah parfait, on n'en parle pas alors.
Je voulais revenir sur d'autres trucs. Non mais si vous voulez, Marine Tondelier, on va en parler. Visiblement, vous insistez. Mais, moi, je voulais parler d'écologie, mais après,
c'est
vous qui voyez.
Bah, c'est, on fait les deux en même temps.
Blague à part, on va en parler évidemment parce qu'on est casse-couilles dans cette émission. Mais avant ça, on voulait quand même parler aussi.
Je pense pas autant que moi.
Il y a des gens qui discutent et qui phosphorent sur l'écologie, et puis il y en a qui en font.
J'ai vu, ils n'arrêtent pas de parler Fabien Roussel.
Je parle notamment, mais oui, je ne sais pas pourquoi il se prend des balles depuis tout à l'heure, alors qu'on a.
En plus, j'ai dit que je l'aimais bien.
Mais en plus, non, mais on va en parler. Mais avant ça, il y a une écologiste qui est venue sur ce plateau il y a quelques semaines et qui, elle, prétend et valorise le fait qu'elle fait de l'écologie concrètement dans un contexte particulier. C'est Barbara Pompili, une ancienne de votre parti, qui a quitté le parti pour rejoindre Emmanuel Macron. On a un extrait qu'on va écouter de Barbara Pompili dans l'excellente émission Backseat qui parlait de ça.
Parce que moi, je veux bien que tout le monde se projette à 2027. Pendant ce temps-là, la planète se réchauffe. Pendant ce temps-là, on a des problèmes en cascade qui nous tombent sur la tête à cause du réchauffement climatique qui touche tous les aspects de notre vie. Et puis, bah là, du coup, plus personne ne s'en occupe. Moi, je considère que si on ne s'en occupe pas pendant 4 ans, c'est criminel.
C'est criminel de ne pas s'occuper d'écologie et de discuter pendant des heures de la philosophie du pourquoi, du comment, de réinventer la politique.
Alors, je pense que ces sujets, ils sont urgents, mais que c'est aussi urgent de sécuriser notre avenir et donc de prévoir l'outil mouvement qui permet de relever ces défis. C'est à un moment, si on ne fait que les urgences tout le temps, on ne se projette pas, on ne construit pas, on n'y arrive pas non plus. Mais là où Barbara Pompili a raison, vous voyez, je suis sympa, c'est que quand elle dit le mot criminel, ça paraît dur. D'ailleurs, si c'est moi qui le disais, j'aurais plein de trolls sur Twitter qui disent qu'elle a encore pété un câble, etc.
Pas dans cette émission, en tout cas, mais ouais.
Parfait, c'est pour ça que je suis venue. Mais la réalité, c'est que les enfants, attention, c'est le moment où je casse l'ambiance, mais les enfants qui naissent en 2023, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable quand ils auront 30 ans. C'est ça la réalité. Okay. Et donc c'est pour ça que moi, ce qui me fatigue dans les débats, NUPES, pas NUPES, coalition, Fabien Roussel, je ne sais pas quoi, c'est qu'en fait...
Encore lui ?
J'ai l'impression, je sais pas si ça marche bien, là, oui. Non, mais j'ai l'impression qu'on a aussi une passion de nous-mêmes et qu'on passe notre temps à... Enfin, en fait, ça pourrait être tellement plus simple. Et je trouve que, y compris les journalistes, je ne parle pas de vous spécifiquement ici, mais quand je lis la presse politique, ce n'est que là-dessus. Qui est content avec qui s'est disputé avec qui ? On dirait une telenovelas, quoi. On dirait
de la politique.
Oui, mais en fait...
Mais vous le disiez tout à l'heure vous-même, il faut créer l'outil qui permet de créer les conditions demain. Donc c'est pour ça qu'on pose ces questions-là. C'est parce que cet outil-là, ça intéresse des gens.
Mais en fait, on en vient beaucoup à parler de stratégie électorale, de pourquoi, de comment. Et c'est aussi la 5e République qui arrive à son terme. C'est, en fait, c'est c'est pas les journalistes qui posent la question, le problème. C'est le symptôme du fait qu'on est au bout, on est dans une impasse démocratique en réalité.
Ouais, enfin, le jour où on passera une 6ème République, il y aura toujours des engueulades entre partis, il y aura toujours une gauche divisée dans ce pays.
Je crois que Usul voulait parler, comme je l'ai dit en
la question. Non, mais c'est moi qui distribue la parole, il y a Léa d'abord et Usul juste après.
D'accord.
Tac. J'ai essayé.
Désolé, Usul.
Léa, vas-y, t'as vu.
Alors, Emmanuel Macron, je pense que ça dit quelque chose. A dit qu'il était à la recherche d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale et qu'il était prêt à travailler avec le Parti socialiste et EELV.
Je crois qu'en fait, il n'est pas prêt. Je crois qu'en fait, il n'est pas prêt.
À condition que vous soyez constructif. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir ?
Ben, je ne sais pas si c'est un champion du monde de la construction, puisqu'on voit depuis quelques semaines, donc j'aime beaucoup. C'est le cercle de la raison. Vous savez, ils sont là en haut, puis ils nous disent ce qui est constructif, ce qui n'est pas constructif.
Qu'est-ce que vous lui répondez ? Oui, non, peut-être, il faut voir.
Alors, quand il dit qu'il est prêt, moi, je pense qu'il n'est pas prêt.
Non, mais qu'est-ce que vous lui répondez ?
Et je lui réponds que ça n'a pas de sens. J'ai fait un débat la fin avec Stéphane Séjourné au Grand Jury RTL, et il disait en gros, les Verts français, c'est vraiment des abrutis d'extrême gauche qui vont dans des bassines à Sainte-Soline. Et en Europe, les Verts sont responsables. Regardez, les Allemands, les Verts allemands travaillent avec les libéraux. Et j'ai dit, mais je crois que dans leur gouvernement, il n'y a pas Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, par exemple.
Non, il y a les sociaux-démocrates.
Voilà, non, mais il y a une manière. En fait, ils sont complètement enlisés. Et pour que Macron demande aux Verts de peut-être rentrer dans son gouvernement, c'est quand même qu'il est assez mal barré. Enfin, je pense que s'il a l'idée, là, au bout de 8 ans,
dans un truc. Faut pas regarder les Verts comme ça. Hein. Ça se trouve, c'est des gens responsables qui sont capables de gouverner.
Mais nous le sommes, mais on est capable de gouverner dans un gouvernement qui.
En fait, il y a une ligne
Regardez Nicolas Hulot, regardez.
Après, je pense
quand
que...
vous êtes. Ministre de l'Environnement, même Hulot, il était numéro 2 du protocole de gouvernement, il était ministre d'État.
Là, en l'occurrence,
il ne parlait pas du gouvernement,
il parlait de l'Assemblée nationale.
C'est ça dont il parlait.
Il parlait de la majorité à l'Assemblée nationale.
Et vous voyez, même le texte, ils ont fait un texte sur les énergies renouvelables, et je me rappelle très bien, la première fois que j'ai vu Elisabeth Borne, donc c'était en décembre, juste après mon élection, soi-disant qu'elle voulait me consulter sur les retraites, mais bon, j'avais cru comprendre avant d'y aller qu'elle ne prendrait pas mon avis. Mais elle nous parle de ce texte sur les énergies renouvelables en disant bon, bah, j'imagine que vous le voterez, puisque c'est les énergies renouvelables.
Bah oui, vous êtes écolo.
Et je lui disais bah, oui, mais vous êtes en train d'accomplir l'exploit de faire un texte sur les énergies renouvelables qu'on ne peut pas voter. Le texte qui sortait du Sénat, par exemple, ce n'est pas
pas les plus grands écolos de l'écologie.
Mais ils avaient fait un truc intelligent qui disait qu'on mettait des panneaux solaires sur tous les, sur tous les toits des hôpitaux, des établissements publics, des supermarchés, etc. Les macronistes ont retiré ça à l'Assemblée, des mesures comme ça. Et donc, vous voyez bien que ce n'est pas un truc de mauvaise volonté.
En même temps, vous avez voté contre la taxe carbone au Parlement européen.
La taxe carbone.
Vous n'êtes pas méga constructif. Hein.
Bah oui, parce qu'on estime que l'écologie, ce n'est pas punitif. Et qu'en en fait, on a vu quand même dans ce pays les bonnets rouges, les gilets jaunes, là, ce qui se passe par ailleurs depuis quelques mois, que si on ne présente l'écologie que comme une punition, des interdictions et des taxes en plus, ça ne marchera pas. C'est même l'inverse de ce que nous on prend.
C'est une bonne lecture. Usul.
Alors justement, je veux bien qu'on revienne sur ces états généraux de l'écologie. Parce que moi, ça m'intéresse de parler grande stratégie, comme on dit en jeu vidéo, de voir un peu le long terme. Et c'est quoi ? Moi, j'ai toujours pas compris, en fait. C'est quoi l'idée ? C'est d'arriver à faire un tissu d'acteurs, y compris implantés localement. C'est quoi le modèle ? C'est un peu la contre-société communiste qu'il y avait dans les mairies communistes, etc.
Encore Fabien
Roussel. Non, mais... parce que c'est d'essayer aussi de créer un mouvement culturel aussi qui accompagnerait aussi un petit peu tout ça. Et c'est pour ça, d'où la diversité des acteurs. Le problème, c'est qu'un mouvement culturel, ça se décrète pas. Là, il y a un mouvement culturel, il y a un mouvement politique profond qui est celui contre la réforme des retraites. Mine de rien, ça a un peu éclipsé vos états généraux de l'écologie. Si, quand même un petit peu, parce que ça a même mobilisé des énergies de vos militants, et c'est bien normal.
Non, mais c'est plutôt la mobilisation sur les retraites.
Que j'ai dit.
Et pourquoi je pensais que tu parlais de Sainte-Soline. Mais on a nous-mêmes décidé de pas trop communiquer, on relance là cette semaine, parce que en fait, nous-mêmes, on était absorbés par autre chose, donc on a travaillé autrement pendant plusieurs semaines. Et on relance là cette semaine les choses. Mais pour le coup, tu proposais des alternatives. Est-ce que c'est plutôt ça ou plutôt ça ? J'ai envie de te dire, les deux, mon camarade. C'est que la bataille culturelle, évidemment qu'il faut la mener. Alors même si elle progresse de fait, pas juste grâce aux Verts, mais grâce aux catastrophes climatiques que chacun constate au quotidien. Mais moi, j'ai discuté avec Cyril Dion. On discutait de, vous savez, l'American Way of Life. On disait ça un moment. Vous regardiez les séries, les films, vous voyez partout le modèle américain. Et donc, tout le monde y voyait ça à la télé depuis les années 50. Et il disait, moi, je veux ça. Un pavillon, le Labrador, les deux enfants, le serre-tête et la grosse bagnole. Tout le monde voulait ça. Et on voyait ça dans les films.
Confondait avec Neuilly, là, non ?
Non, mais vous voyez cette image des séries américaines, c'est Desperate Housewives, quoi. Mais pas que, et depuis très longtemps. Nous, il faut qu'on crée le Ecological Way of Life. C'est-à-dire qu'on montre, c'est pas juste de la théorie, des punitions, c'est montrer. Nous, la société qu'on propose, c'est ça. Et c'est là qu'on vous emmène. Donc ça, c'est la bataille culturelle qu'il faut mener. Mais évidemment, pour la mener, il faut être coordonné, chacun à son poste. Il faut qu'on organise ça aussi. Pourquoi je peux par contre pas dire ce soir, on va faire exactement comme ça ? C'est que c'est un processus démocratique et qu'on est vraiment avec... Il y a démocratie ouverte, il y a Rouge Juif qui est notre prestataire. On travaille avec des spécialistes de ça. Et donc, si j'avais exactement la réponse de ce que je veux faire, ce ne serait pas de la vraie démocratie participative.
C'est comme le gouvernement qui consulte. Oui, non,
exactement. Ouais, ouais, et d'ailleurs, j'ai une collègue qui s'appelle Hélène Desplanques que j'ai rencontrée parce qu'elle a fait plein de documentaires chez moi, Shamsonite et tout, des documentaires des luttes sociales. Et pour le coup, je ne pense pas qu'elle soit écologiste. Enfin, j'en sais rien, en fait, mais en tout cas, elle ne me l'a jamais dit. Mais elle bosse sur les cahiers de doléances. Elle est allée chercher dans les sous-sols des préfectures les trucs où il y a des millions de Français qui étaient en mairie. On leur a dit c'est le plus gros exercice démocratique jamais fait. Les trucs pourris en préfecture, personne ne les a jamais ouverts. Donc elle les ouvre, elle fait une pièce de théâtre dessus, c'est super. Et maintenant, elle fait un film. Et elle m'a appelée en me disant j'ai vu ton truc. Et ce que je trouve super, c'est que tu réhabilites en fait, la démocratie participative, parce que Macron, il a sali le concept. Il a dit cahier de doléances, c'est je vous écoute tous, venez comme vous êtes. Et en fait, il ne l'a pas fait. Et il y a plein de gens maintenant, quand ils entendent cahier de doléances, ils disent « Ah oui, c'est le truc qui sert à rien, qui pourrit, que j'ai rempli, que personne n'a jamais lu. » Et donc, je pense qu'il faut vraiment revendiquer cette méthode. Et que oui, moi, je suis... En fait, on confie quand même les clés des camions à des gens, on ne sait même pas vraiment qui c'est. Mmh. Et en fait, tant mieux. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Et si on veut se changer, alors c'est ça qu'il faut faire.
Léa, tu avais une question sur le féminisme.
Oui.
Et après, j'aurais une question sur le nucléaire. Et après, promis, on parle
de... J'avais une question sur le féminisme. Mais est-ce que je peux changer ma question, du coup?
Ah, tu fais ce que tu veux, mais c'est à
dire. Les gens, ils n'ont pas la version de base.
On avance pas mal et que du coup, j'aurais peut-être pas trop l'opportunité de poser.
Pose la question que tu veux, Léa, ça me fait plaisir que tu sois là.
C'est la démocratie.
Il y a autre chose qui vous caractérise, c'est que vous êtes dans une ville, vous êtes conseillère régionale et municipale, si je ne me trompe pas. Votre page Wikipédia est à jour, c'est une bonne nouvelle. Hénin-Beaumont, qui est un bastion de l'extrême droite, hein, clairement, et donc vous êtes dans l'opposition depuis des années dans cette mairie. Concrètement, qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau, en tant que conseillère municipale d'opposition, et j'imagine bien que ça ne doit pas être évident, à votre décharge, pour éviter que l'extrême droite continue à monter, pour contrer en fait cette montée de l'extrême droite, et demain, admettons, pour les élections législatives, enfin pardon, les élections européennes, on sait que au Parlement européen, il y a quand même beaucoup de personnes d'extrême droite. L'extrême droite en France a deux fois plus de sièges que Europe Écologie Les Verts, alors que c'était quand même votre élection de ouf. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire en sorte de doubler l'extrême droite sur cette élection?
Alors, sur ces deux questions très différentes, parce qu'en réalité, Hénin-Beaumont, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville où, moi, quand j'étais au lycée, puis étudiante, le maire socialiste, puis apparenté, je ne sais pas quoi, a été mis en prison pour 18 chefs d'inculpation. C'est-à-dire que c'était, y avait les mines qui ont fermé, donc crise sociale, puis crise politico-judiciaire, avec un feuilleton, vous lirez un jour l'histoire de cette ville, c'était Dallas. Il y avait toutes les semaines un truc, soirée, partie fine avec des prostituées, du champagne dans les logements sociaux,
affrontation du Luxembourg.
Ah non, mais et puis ça, Hénin-Beaumont, ça fait jaser, tu vois, t'es là, bon, quand même, au moins il se passe un truc. Et donc Marine Le Pen, qui est un peu, vous voyez, moi je l'assimile à un vautour, mais j'ai eu des... Il y a des copains naturalistes qui m'ont dit qu'il faut arrêter, c'est diffamatoire pour les vautours.
Oh merde, les pauvres vautours.
Bref, donc les vautours sont très sympas. Embrasse, hein. Mais c'est un animal, on appelle ça un animal opportuniste. Vous savez, il tourne comme ça dans le ciel, il ne mène pas la bataille, il attend qu'il y ait un truc, c'est un charognard, quoi. Il attend qu'il y ait un truc crevé par terre, il dit tiens, voilà. Bah, la ville crevée par terre, c'était la mienne. Le Pen, elle s'est présentée. Ils ont dit tiens, Bassin-Minieux, ça a l'air de craindre socialement. Alors elle était à Lens, puis après ils ont dit non, Hénin-Beaumont, là, ça va vraiment craindre, viens là, viens là. Et donc elle se présente aux municipales, puis aux législatives, etc. Vous, quand c'est votre ville, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire, je disais aux gens, bah, quand même, elle n'est même pas de là, elle est de Neuilly. Elle s'appelait comme moi, elle prenait ma ville. On disait, ah, Marine d'Hénin-Beaumont, ah, ben, c'est toi. Enfin bref, c'est un peu, il y a une sorte de violence symbolique. Et voilà, il y a eu un terreau fertile. Et moi, ce que je voyais aussi, c'est que c'était un parti caméléon. J'aime beaucoup c'est mon côté écolo, j'aime beaucoup les c'est qu'en fait, ils se mettent là, ils prennent la couleur et hop, voilà, ils prennent la couleur sociale. Et donc, à l'époque, quand ils gagnent en 2014, François Hollande est au gouvernement. Fait n'importe quoi. Moi, je fais du porte-à-porte pour les municipales. Les veuves de mineurs ouvrent en disant bah, « Moi, c'est la première fois de ma vie que je paye des impôts sur le revenu et c'est grâce à la gauche, donc merci, non merci, paf. Voilà. » Vous êtes bien peu de choses, quand même, pour contrer tout ça. Et c'est pour ça que très tôt, je me suis dit que... Enfin, j'ai jamais séparé en disant « Je fais que le local ou que le national. » Pour moi, ça allait ensemble. Parce que, en réalité, vous faites du porte-à-porte dans une journée. Au pire, vous faites quoi, 40 portes, enfin au mieux. Vous parlez à 35 personnes, et peut-être vous en convainquez une et demie, ceux qui rentrent dans tous les salons, c'est ceux qui passent à la télé, il se trouve. Et donc, Le Pen, elle faisait ce truc, par ailleurs, incroyable de caméléon, où, chez nous, donc il y avait Hollande, et donc, il se revendiquait de Jean Jaurès. Le maire Civrivois qui gagne, il dit à tout le monde, l'héritier de Jean Jaurès, c'est moi. D'ailleurs, il met le buste de Jean Jaurès à son élection. Voilà. Et aujourd'hui, mon maire, figurez-vous que c'est Greta Thunberg, puisque maintenant, son opposante, c'est moi, et donc, son programme de 2020, c'était Hénin-Beaumont, une ville-jardin. Et vous voyez, il y a ce truc. Et donc, quand vous êtes à Hélène Beaumont...
C'est repas en verre.
Ah ben, ils me mettent des... Alors, ils ont coupé beaucoup d'armes, mais j'ai gagné au tribunal. Donc, maintenant, ils me disent, en fait, c'est con, donc ils changent. C'est vraiment un parti opportuniste et très...
Certes.
Voilà.
Bon, ça, c'est le constat.
Ça, c'est... En fait, la démagogie et le populisme, c'est hyper dur à combattre.
Ouais.
Parce qu'évidemment, moi, je peux vous montrer le journal municipal où depuis, du coup, que j'ai 26 ans, tous les mois, j'ai mon portrait en quatre paragraphes, où c'est n'importe quoi. Mais les gens... J'avais même quelqu'un... Parce qu'il disait, c'est une bobo parisienne, c'est bobo parisienne. Et un jour, quelqu'un des jeunes d'écolo, il a le concours de Sciences Po Paris, il était dénonce. Je dis, bah, franchement, bravo. Et il me dit, tu me diras où t'habites à Paris pour que je prenne un truc à côté. Je dis, mais je n'habite pas à Paris, j'habite à Hénin-là. Il fait, non, mais je sais, mais t'as une adresse à Paris que tu dis pas pour pas que ça sache. Je dis, enfin, non. Il avait tellement lu dans le journal municipal et c'est tout le temps comme ça. Les gens croyaient que je cumulais. Je dis, mais je cumule pas, j'ai pas compris, j'ai cumule quoi. Bah, je sais pas.
Non, mais ça, d'accord,
tu vois, il y a un truc très. Quand t'es tout seul, tu peux pas. Et donc, ce qui est dramatique sur la stratégie du Parti Vautour, c'est qu'ils vivent. En fait, ils prospèrent moins sur leurs forces que sur nos faiblesses. Et quand tu vois là en ce moment sur les retraites, ils servent à rien. Dans le débat à l'Assemblée, ils servent à rien. Dans le mouvement social, ils sont pas là. Ils attendent. Et en fait, notre médiocrité, celle d'Emmanuel Macron, qui fait son truc, qui est en train d'énerver tout le monde, même ses électeurs du premier et du deuxième tour, et à côté, le fait qu'il y ait du mal à avoir une alternative crédible à tout ça, un chemin d'espoir et de victoire pour 2027, ça fait que quand tu vois, tu dis, bon, bah, vraiment, si tu veux plus Macron, tu dis, bon, bah, la seule qui peut gagner, c'est elle. Et ça, c'est hyper. Donc, je pense qu'il n'y a pas de réponse, facile.
Du coup, il n'y a pas de réponse facile.
S'il y avait une réponse facile en 10 secondes, je vais te dire.
Non, j'entends bien. Mais est-ce que vous avez une stratégie, au moins, ne serait-ce que sur la stratégie électorale, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que les Verts vont faire en 2024 pour éviter que le parti du Rassemblement national ait deux fois plus de députés, alors que c'est l'élection, par définition, d'Europe Écologie Les Verts ?
Donc, ce n'est pas qu'une question en fait, des Verts, c'est une question que chacun doit se poser. Et nous, on fait notre part. On fait notre part. Par deux choses, on a recréé une commission extrême droite que moi j'avais créée dans le temps et à un moment j'avais dit il faut passer le relais parce que c'est déjà toute la journée, si le soir mes trucs pour les Verts c'est de rebosser sur l'extrême droite, je vais devenir, ça va pas aller quoi. Et il y a personne, voilà, j'avais trouvé pas de repreneur. Et là c'est Raphaël Rémy Leleu qui a pris le flambeau, qui a créé ça et je vois qu'il y a une envie de bosser sur les programmes, sur les stratégies, etc. Au niveau des états généraux de l'écologie, on s'est aussi fixé comme objectif d'aller renouer avec certains territoires. Les territoires ruraux, la France périphérique. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est dans le nombre de répondants, les 25 000 répondants aujourd'hui, on sait qu'il y a 47% des Français qui habitent dans des villes de plus de 100 000 habitants. Et donc on aurait pu dire, bah, comme chez les Verts, c'est encore pire, 60% de leurs répondants seront des grandes villes. Et c'est l'inverse. Il n'y a que 22% des gens qui ont répondu à des questionnaires qui sont de grandes villes. Donc ça veut dire qu'on arrive à aller chercher aussi dans les territoires. Et c'est vrai que c'est aussi des questions d'incarnation. Moi, je ne suis pas d'île de France, une grande ville, je suis d'Hénin Beaumont dans le Pas-de-Calais, comme Claire, t'es de Morson-sur-Orge, on peut le dire. Et donc, je pense que c'est important aussi d'avoir des incarnations qui représentent la France.
Sûr.
Quand vous dites « on vous représente », mais qu'il y a un moment où je pense 90% des gens des Verts qui passaient à la télé pour le parti, qui étaient des écologistes, il n'y a pas de problème, hein. Mais ils habitaient dans le triangle d'or Belleville-République-Bastille. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être écolo quand on habite là, bien au contraire. Mais le mec qui habite à la campagne, on dit si on t'aime, si on te parle, si on a plein de trucs pour toi, il n'est pas obligé de se sentir représenté.
Quand il faudrait que tu forces l'accent, parce que Fabien Roussel, il force l'accent un peu.
Ouais, mais alors, je peux faire, mais je ne vous le souhaite pas.
Moi, j'avais une question aussi sur une thématique importante sur le plan de l'écologie qui touche quand même beaucoup de gens. C'est la question de l'énergie, de la production d'énergie et de l'électricité. Mm-hmm. On l'a vu avec la crise en Ukraine, on l'a vu avec la nécessité de l'autonomie stratégique européenne promue par absolument tout le monde. Le président de la République a lancé un grand plan de renouvellement du nucléaire. Il se trouve, j'ai l'impression, peut-être que c'est une perception, mais j'ai l'impression que le mouvement anti-nucléaire a beaucoup perdu de sa hype qu'il avait encore dans les années 90-2000 où c'était un peu naturel quand on est de gauche d'être anti-nucléaire parce que ça faisait partie de l'altermondialisme, alors qu'aujourd'hui bah, beaucoup de je constate que beaucoup de jeunes qui regardent mes émissions, ils sont totalement écolo et totalement pro-nucléaire, voire même totalement écolo donc totalement pro-nucléaire. Est-ce qu'Europe Écologie Les Verts est toujours anti-nuc aujourd'hui?
Oui, je vais vous expliquer pourquoi.
Alors on peut être anti-nuc et écolo?
Oui.
Alors comment on fait?
Je vous explique. La première chose, c'est que je pense qu'on a failli sur un truc. Et moi, très sincèrement, même là, quand je suis devenue secrétaire nationale pendant les vacances de Noël, en fin d'année, je me suis vraiment reconfrontée au problème parce que je vois tellement de jeunes qui m'interpellent sur les réseaux sociaux, j'ai accepté de me reconfronter en disant si j'avais leur âge maintenant, j'arrive chez à l'écologie, je vois la fin de... Parce que c'est ça qui se passe. Hein.
Oui, absolument.
C'est la fin, c'est l'effondrement. Les gens disent, bon, OK, les déchets qui pètent dans un million d'années, on s'en fout, nous, on a 3 ans. Ça, je peux entendre qu'on dise ça aujourd'hui. Et donc, je me suis reconfrontée en... Non, mais nous, le problème, quand, quand je suis arrivée à l'écologie, c'était les déchets, c'est pour un million d'années, on va les enterrer, on ne sait pas où, on ne les retrouvera jamais. Il y a une centrale qui va péter dans 100 ans de je ne sais pas quoi, la montée des eaux. Et c'était loin. C'était potentiellement prêt, mais le problème était aussi de long terme. Et aujourd'hui, les gens disent tes déchets dans un million d'années, franchement, on s'en fout, on ne sera plus là, on va tous crever, donc là, on veut vivre.
J'ai pas l'impression que c'est ce que disent les
producteurs.
Peut-être certains, mais.
Enfin, moi, c'est beaucoup l'argument que j'ai.
Après, il y a une génération de Tchernobyl, et Tchernobyl, c'est loin. Fukushima, c'est loin géographiquement.
C'est la mère des batailles, c'est le climat, et donc pour gagner le climat, il faut le nucléaire, et donc voilà. Et donc je pense justement que c'est au moment de Fukushima qu'on a tout perdu. Moi, en 2015, quand il y a eu Fukushima, je me suis dit, on a gagné. Plus personne, après Fukushima, parce que Tchernobyl, on disait, c'était chez les pauvres, c'était tiers monde, mais là, c'était les Japonais, c'était sérieux. Et en plus, c'était une catastrophe climatique dont on sait qu'il y en aura de plus en plus. Moi, j'habite à côté de Gravelines. Pour le coup, la centrale, elle est construite en dessous du niveau de la mer et c'est la plus grosse d'Europe. Hein, donc, t'as pas trop envie. Voilà. Et pendant la tempête, à Ablaye, en Gironde, on a frôlé vraiment l'incident. Et donc, on disait ça. Et en 2015, on dit, bon, bah voilà, c'est QFD, là, les gens, le débat est terminé, en fait. Plus personne, d'ailleurs, même François Hollande, il fait ses trucs. On dit, plus personne ne va oser reporter ce truc-là. Et donc, bah, comme on est écolo, on a plein d'urgences, la biodiversité, le climat, machin, truc, on part sur les autres trucs, en restant anti-nucléaire, mais c'est pas de ça dont on parle tous les jours. Et pendant ce temps-là, qu'on fait les autres, ils ont mené la bataille culturelle. Ils se sont organisés dans l'ombre, on n'a pas vu venir le truc, avec pour le coup beaucoup, 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 beaucoup de pognon, un pognon de dingue. Et quand tout d'un coup c'est sorti, la BD, le truc, le film, les conférences, la star Jean Covici, et on n'a pas le Jean Covici anti-nucléaire, en fait, c'est ça le problème aussi. Et peut-être qu'il y en a plein, mais voilà.
Je ne sais pas si c'est la personne de Jean Covici qui séduit, c'est tout, j'ai l'impression que c'est l'argumentaire aussi.
L'argumentaire.
Il y a aussi l'argumentaire.
Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fabuleux discours, la fabuleuse légende des pro-nucléaires où tout va bien, ça n'existe pas. C'est une légende.
J'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils disent en plus. Mais d'accord,
j'entends. Les 6 EPR que promet Macron n'existeront pas. Ça ne se fera pas. On n'a plus les moyens industriels. On ne sait pas le faire techniquement. On ne sait pas le faire. On n'a pas le fric pour le faire. Et regardez à Flamanville, le seul nouvel EPR qu'ils ont voulu construire, ça devait ouvrir en 2012. Écoutez, 3 milliards d'euros. On est en 2023. On ne sait toujours pas quand ça ouvre. C'est la merde totale. Et ça a déjà coûté plus de 20 milliards d'euros. C'est le plus grand fiasco industriel français d'après-guerre.
Ça ne change rien à l'objectif.
Et donc,
politique.
Quand tu as un prototype qui ne marche pas, nulle part dans le monde, tu dis, bah, moi, du coup, ma solution pour sauver et le climat et la crise énergétique, c'est que les trucs comme à Flamanville, j'en fais 6. Ok, super. Et donc, ça n'existe pas. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on base, vous voyez, tout l'argument sur le climat et tout, les accords de Paris, on doit baisser de 50% les émissions pour 2030. Toute notre stratégie est basée sur le nucléaire, sur ces 6 EPR qui n'ouvriront jamais avant 2030, d'ailleurs. Le gouvernement du 2035 et les rapports secrets dans le ministère qui fuitent disent non, mais ce sera plutôt 2040. Et en fait, ce sera peut-être jamais. Et pendant ce temps-là, comme ça coûte un pognon de dingue, tout l'argent qu'on met là, on ne met pas dans l'éolien, dans le photovoltaïque, dans les autres énergies, donc on prend un retard considérable. L'Allemagne, on peut critiquer qu'ils ont du charbon et tout ça. C'est vrai, on préférait qu'ils n'en aient pas. Sauf qu'ils sont en train d'en sortir et qu'ils ont 49% de leur électricité vient de l'éolien et que ce sera en 2030 80%. Et nous, on sera où ? En train d'attendre nos EPR qui ne marchent pas. Donc moi, j'en veux pas à ceux qui sont pour le nucléaire. S'ils veulent venir en débattre chez nous, tous les Verts du monde, ils arrivent chez les Verts et ils sont anti-nucléaires. Donc c'est peut-être pas un hasard non plus si on fait partout dans le monde le même constat. Et voilà, ils sont les bienvenus, mais je pense qu'on les convaincra. Et puis si on ne les convainc pas, c'est pas grave, c'est la démocratie.
Claire.
Oui, je pense, et c'est lié à tout ce dont on parle là, la question qui se pose pour ELV, c'est aussi l'arrimage avec le mouvement climat qu'a émergé, où il y a une grosse partie, effectivement, qui sont plutôt pro-nuc, qui voient le nucléaire comme une partie du mix énergétique futur. Et en fait, c'est du coup leur lien avec l'histoire de l'écologie politique qui a été fondamentalement anti-nucléaire depuis ses débuts, l'histoire longue. Donc en fait, en tant que parti, est-ce qu'il y a ce rôle du coup de transmission d'une histoire peut-être pour remettre dans un contexte plus long cette histoire du nucléaire, de son lien avec la construction de l'État français, de l'État centralisé français, et de tout ce que ça implique aussi en termes de balance des risques, quoi. Et
oui, c'est vrai.
Enfin, la question de la transmission de cette histoire-là.
C'est ce qu'on essaye de faire. Moi, on me disait, quand j'ai été élue, en disant « t'as plein de combats à mener, ma cocotte, le nucléaire, protège-toi ».
Et moi, tu l'as dit un peu plus tôt, il y a une demande de formation aussi, et c'est très intéressant ce que disait Claire sur la transmission. Oui. Je suis allé aux journées d'été des écolos cet été, c'est un truc aussi qui revenait de « ah ben je sais pas, il n'y a pas de formation, c'est qui les intellectuels, c'est quoi qu'il faut lire ?» Bon, t'as cité Latour, mais il y a une histoire qui est plus longue qui passe.
Là, tu parles sur le nucléaire ou en général ?
Je parle en général dans la culture écolo, mais normalement le nucléaire ça fait partie des fondamentaux.
Évidemment, et là on a fait une masterclass pour les journalistes sur le nucléaire, avec nos experts, donc il y avait Bernard Laponche qui est quand même polytechnicien et et il était dans les premiers à construire la centrale nucléaire, et c'est ça qui l'a convaincu qu'il fallait plus rien.
C'est vrai.
Il y avait évidemment Négawatt, il y avait Pauline Boyer qui bosse chez Greenpeace, et c'était hyper intéressant parce qu'il y a plein de journalistes qui disaient bah oui, c'est les Verts qui ont organisé ça en disant voici nos experts et ils vont vous expliquer, et vous êtes d'accord ou pas d'accord à la fin, mais au moins vous aurez eu aussi nos arguments. Et ça, il faut qu'on le fasse plus sur ce sujet, sur d'autres. Mais vous savez, la formation, ça se fait bien, ça prend du temps, de l'argent. Et je rappelle juste ici qu'on n'en a pas. Les gens disent, c'est bon, maintenant, vous avez eu des maires et tout ça. Oui, mais ça ne rapporte pas beaucoup d'argent au parti d'avoir un maire. Et vous avez des députés, oui, mais le financement public sur ces députés, il sera effectif à partir d'octobre. Et donc, on est vraiment dans un moment où on est en train de se reconfigurer. Quand je suis arrivée à la tête du parti, il y avait 5 salariés au niveau national.
Mais est-ce qu'une des victoires culturelles là-dessus...
c'est qu'on a plein de choses à faire, on le sait. Ça fait partie du plan sur le mandat de tout ce qu'on doit
dernière
faire,
question,
et on est en train d'avancer là-dessus.
Et finalement, une des victoires culturelles du mouvement écolo sur le nucléaire, c'est d'avoir les insoumis qui sont anti-nucléaire.
Oui, oui, oui. Ça fait du bien, parce que je peux dire que le débat au Sénat, on était un peu seuls, c'est-à-dire les 10 sénateurs, et à l'Assemblée, on a des alliés. Il faut qu'on ait un peu plus, une partie du groupe socialiste aussi tient bon sur le sujet, et il faut qu'on convainque encore d'autres personnes, pas juste par principe, bien les centrales, c'est cool, mais vous êtes en train de miser toute notre stratégie climatique et énergétique sur un truc dont vous savez que ça ne marchera pas et pas dans les temps voulus.
En parlant des insoumis, tiens.
Allez.
Les insoumis, dans cette très belle émission, il y a quoi, un peu plus d'un an maintenant, ils nous disaient plutôt crever que de faire alliance avec les SOSDEM écolo
et socialistes.
Comme
quoi, tout le monde peut changer d'avis.
Ensuite, il y a eu la NUPES. Voilà, et là ils disent, il y en a dans le chat, ils sont vénères, hein. Ils disent, oulala, les écolos, ils veulent pas faire alliance pour les Européens.
Ah, ça revient. Hein.
Dis donc, vous divisez la gauche.
Faudrait arrêter de diviser la gauche.
Il faudrait arrêter, s'il vous plaît, de diviser la gauche.
Je pense que tout est de ma faute.
Je pense aussi.
Voilà.
Parce que chez les Verts, il y en a qui disent qu'il faudrait peut-être la faire quand même, la liste commune. Il y a
des voix qui sont élevées. C'est notamment les militants et militantes.
Non, mais
Comment on fait, du coup, alors? Marine Cordelier, y aura-t-il une liste commune NUPES aux élections européennes l'an prochain?
Alors, je vais vous dire, même si je me mettais à genoux devant Emmanuel Bompard pour lui dire « Enfin, Manu, j'accepte
la proposition »,
il n'y a pas de liste NUPES aux européennes. Même Fabien Roussel ne le veut pas. La proposition qui est faite...
C'est pas sympa, c'est la faute sur le voisin.
Mais non, mais en fait, à un moment, je veux bien être le bouc émissaire de toute la gauche. On est en train de se poser une question fictive. Parce que non seulement il n'en veut pas, mais je vais vous dire que l'argument de dire « c'est bon, donne la tête aux écolos, la tête de liste aux écolos », je ne suis pas sûre que ça le convainque davantage. C'est la vérité. Donc, il y a des élections où, où la coalition doit fonctionner et on la fera fonctionner. Moi, je milite vraiment pour qu'on parte en 2027 ensemble. Et je remarque qu'on a beaucoup plus de mal à en parler, parce que c'est plus loin, mais ça arrive maintenant. Et pour le coup, c'est beaucoup plus stressant de voir Marine Le Pen arriver à l'Élysée qu'une élection à la proportionnelle à un tour, où en fait, c'est le scrutin nous qu'on demande pour partout.
C'est peut-être ça qu'il faut rappeler.
C'est le truc le plus démocratique. C'est le truc qui permet à chacun d'aller sous ses couleurs sans prendre de voix au voisin, d'empêcher quiconque d'arriver au deuxième tour. Je ne sais pas, il n'y a pas de deuxième tour. Et donc, si on veut envoyer un maximum de députés écologistes et de gauche au Parlement européen, je pense que c'est ça qu'on veut. Je vous rappelle qu'au niveau européen, c'est des coalitions à la fin et qu'entre faire une coalition plutôt avec la droite ou plutôt avec la gauche vers nous, ça va se jouer à une dizaine de députés. Et que peut-être qu'il faut mieux faire 35 séparément que 25 ensemble. Et ce qui se passe,
et 50 ensemble,
dire,
c'est... Non,
allons-y, mais il va falloir commencer à tracter tout de suite.
Et c'est ce que pour je veux faire juste 20 séparément.
C'est que moi, j'entends aussi... Quand vous dites aux Français...
Les électeurs, ils peuvent sanctionner la désunion.
Non, mais évidemment, quand vous dites, vous préférez être ensemble ou pas ensemble, vous préférez l'union ou pas l'union, évidemment, les gens disent, je préfère l'union. Il n'y a même pas le reste de la question, c'est union.
C'est le bon sens.
Sauf que je peux vous dire que les questions européennes, c'est celles qui clivent le plus entre nous. Je ne dis pas pour insister là-dessus, mais... c'est vrai.
Les votes sont communs énorme partie.
Je veux bien répondre là-dessus, mais vas-y, pose sur Manon.
Manon Aubry, elle est venue à la même place que vous. Elle disait, franchement, c'est pas indépassable. On a déjà fait un énorme travail. La LFI a bougé, c'est vrai, sur un certain nombre de curseurs, en 10 ans.
On les félicite.
Oui.
Non, mais c'est
bien. Et vous facilitez pas la tâche. Hein. Non, mais
je vais expliquer.
Est-ce
pourquoi...
que c'est vraiment indépassable?
Je vais expliquer sur le chiffre de
parce que si vous dites ça, je vois pas pourquoi vous auriez un même candidat en 2027. Hein, si vous me dites maintenant sur les questions européennes.
Je vais voir comment y arriver.
Expliquez-moi, parce que.
Non, mais on me dit, il y a que 10% de votes différents au Parlement européen. Déjà, c'est 20. Par ailleurs, le Parlement européen, c'est un endroit où tout est négocié tout le temps. C'est-à-dire que le taux de vote commun, il est beaucoup plus important au Parlement européen qu'on peut se l'imaginer au Parlement français. Par exemple,
tant mieux.
Entre Manon Aubry et les votes de La République En Marche, il y a 67% de points communs. Je ne pense pas qu'ils sont à 67% d'accord. Quand on regarde sur les commissions précises où il y a des désaccords, notamment la commission Affaires étrangères, et la commission, elle s'appelle Droits humains. Ce n'est pas un détail pour nous, les droits humains. Je ne pense pas que ce soit un détail non plus pour la FI, mais
voilà.
On parle de l'Ukraine, des Ouïghours, etc. Sur ces votes-là, il y a 40% de différence. Et c'est, Et c'est pas juste une question de qu'est-ce qu'on vote au quotidien, c'est aussi une question de vision de l'Europe. Une Europe forte et fédérale, c'est ce que nous pensons que l'Europe est la solution plus que le problème.
Mais vous
l'Europe
bien,
d'aujourd'hui, oui, mais voilà. Mais on n'est pas
bien
d'accord
vu
sur
que la stratégie de notamment d'Emmanuel Macron en ce moment, c'est de pointer les divisions au sein de la NUPES. Créer
évidemment
une séquence dans laquelle vous partez divisé offre une opportunité, c'est-à-dire
mais
sur tous les plateaux, on va vous poser les mêmes questions que nous. C'est quoi qui vous différencie? Vous serez obligé de dire
très, très
les Ouïghours, voilà.
Et Marine Tondelier n'a pas tort.
Une musique, on n'a pas besoin de ça.
Je pense que c'était pas très opportun. En plus, on était en plein dans les retraites. C'était ça qu'il fallait mener comme combat. On disait, on laissera pas Macron tourner la page des retraites, on laissera pas Macron.
Et qu'est-ce qu'on dit?
Oui, mais je remarque que c'est plus des retraites qu'on me parle sur le plateau parce qu'il y a une stratégie de communication pour remettre ce sujet sur le tapis des Européennes à laquelle on avait répondu. Plutôt clairement.
Non, Marine Tondelier n'a pas tout à fait tort. Moi, je connais un mec sur Twitch. Ce serait le premier, si vous étiez unis, à dire mais qu'est-ce qui vous unit vraiment, en fait? Vous êtes d'accord sur rien.
C'est
non, mais ce n'est pas faux. C'est
et
pas
par
faux,
ailleurs, je vais te dire que j'ai des électeurs d'Europe Écologie des Verts qui, si c'est une liste, même, tu vois, on ferait une liste écolo, puis il y a les socialistes qui viendraient, puis peut-être quelques insoumis et tout, peut-être qu'ils voteraient. Mais NUPES, ça veut dire Jean-Luc Mélenchon. C'est comme ça dans l'imaginaire collectif, c'est normal, c'était lui le premier ministre.
De moins en moins,
mais moi je connais aussi beaucoup d'adhérents et d'adhérentes qui sont favorables à une liste commune.
Il y a peut-être un prisme dans les adhérents que tu connais.
Ah, mais certainement.
Parce que donc il y a en fait d'un côté des gens qui sont plutôt des électeurs à nous qui diront mais moi je suis très déçu par ce qui vient de se passer, je peux pas voter pour une liste pareille, et de l'autre côté des eurosceptiques qui vont dire il faut qu'on vote pour une tête de liste écolo, mais moi je suis pas d'accord, c'est pas ça l'Europe, et donc en fait les voix s'additionnent pas dans les élections comme ça. Pour ce qui est des militants écolos, il se trouve mais il se trouve par ailleurs que je suis à la tête d'un parti qui est extrêmement démocratique. Et au Congrès, on a discuté de ce débat. Il y a des gens qui disent que c'était il y a longtemps. C'était dans tous les textes de motion. Les gens ont été assez
clairs. Mais ça, c'est le même argument que Macron qui dit j'ai été élu sur un programme.
Au deuxième tour, cette phrase sur les européennes, c'est la phrase dont on a le plus débattu. Elle a été écrite avec toutes les têtes de liste et c'est vraiment fait l'objet de beaucoup de débats. Je veux bien que 6 mois après, les choses ont dit, c'était il y a longtemps, mais enfin, franchement, en décembre, on n'est quand même pas complètement débiles. On savait qu'il y avait les retraites, on savait qu'ils n'allaient pas s'améliorer sur le plan environnemental, tout ça, on le savait. Donc, on peut redébattre en permanence. Moi, je constate aujourd'hui que j'ai une ligne et je suis élue pour défendre cette ligne. Ça ne veut pas dire que je ne rediscute pas en interne, on passe notre temps à ça. J'ai un bureau exécutif mardi, on a eu un conseil politique. Évidemment qu'on réfléchit, on n'est pas complètement bête et insensible à ce qu'on entend dans l'opinion. Mais aujourd'hui, en y réfléchissant assez sereinement, on fait le choix d'aller sur nos couleurs, sur une élection où nos électeurs nous le demandent, où 90% des adhérents ont voté cette stratégie-là et pour l'instant, elle n'est pas remise en cause, à part par... évidemment, Sandrine Rousseau, ce n'est pas son avis, c'était déjà pas son avis avant. Elle l'a dit au Congrès, elle a fait 13%, c'est toujours pas son avis aujourd'hui. Et ce n'est pas grave, je ne lui demande pas d'être d'accord sur tout. Il y a des règles élémentaires de bien vivre ensemble dans un parti, elles sont respectées, il n'y a pas de problème.
Mais ce
n'est pas vrai de dire tous les militants ont changé d'avis. Ça, pour le coup, c'est faux.
Non, pas tous.
Parce que je prétends quand même connaître ce parti. S'il y a un truc que je connais mieux que vous sur ce plateau, c'est ce parti. Et pour le coup, c'est pas ça qu'on me raconte. Voilà.
On verra si Jean-Luc Mélenchon reste la tête de LFI
c'est
et de
un autre
NUPES.
Sujet.
On verra ça au congrès d'LFI. On va passer à la séquence suivante de l'émission, les enfants. On va terminer avec le quiz à la con. C'est parti pour le quiz à la con. Le quiz. Alors, si elle est drôle, la blague sur le congrès LFI, je la fais à chaque fois.
Mais tu l'as fait toutes les semaines.
Oui, mais elle est un peu drôle quand même. Le quiz à la con, comme chaque semaine, 5 questions, 4 propositions de réponses. Tout le monde réfléchit, essaie de trouver la bonne réponse. Et vous aussi chez vous, vous votez en votant dans le sondage qui est fait sur le chat. C'est parti, la première question de ce quiz à la con. Lequel de ces conséquences le réchauffement climatique a réellement eu? Laquelle de ces conséquences le réchauffement climatique a réellement eu? Réponse A, ça a réglé un conflit entre l'Inde et le Bangladesh. Réponse B, ça a augmenté le pouvoir d'achat finlandais. Réponse C, ça a relancé le tourisme au Japon. Ou réponse D, ça fait de Donald Trump un humain plus responsable.
Il y a un. Bah moi, je suis pas écologiste, moi, je n'en sais rien.
A réglé un conflit.
Tu me dis, genre, il s'embrouille pour un cours d'eau et maintenant il est sec, donc il n'y a plus d'embrouille vu qu'il n'y a plus d'eau. Un truc comme ça, tu vois.
Ah, et tout le monde a soif, pareil.
C'est d'accord. Et ça crée une union forte.
Je me suis un peu raconté une histoire, tu vois, mais je crois que j'ai une réponse possible.
Claire, t'en penses quoi, toi?
Moi, je dirais qu'il doit y avoir un truc avec la B, un produit avec l'inflation ou un truc comme ça qui a globalement. Enfin, je sais pas. Mais j'ai une intuition sur la baie.
Pouvoir d'achat finlandais.
Moi, j'imagine le volcan en Islande. Je ne vois pas pourquoi. Alors, je sais que la Finlande et l'Islande, c'est pas tout à fait à côté.
Que tu vas nous foutre la honte, là.
Mais je me dis que ça a dû avoir une répercussion sur un truc finlandais.
C'est le peuple de la neige, le peuple du Nord, mais tous la, ces gens-là. La, ils sont très protestants.
J'ai compris la question, mais j'ai pas compris la réponse.
Non, mais tu vois, okay. Je sais pas, il y a dû avoir un truc où les gens se sont dit « Ok, bah, on va plus en Islande, on va en Finlande, je sais pas. »
D'accord.
Alors.
Mais non, mais ça n'a rien à voir avec
au demeurant, tu sais que le réchauffement climatique n'a rien à voir avec l'activité volcanique.
Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui achètent des terrains dans, le, oui, dans ces pays-là. Alors, oui. Parce qu'ils disent quand il sera plus chaud.
Le permafrost, ouais. Tout ça.
Ouais. Non, mais ils achètent non, en Suède, ça, en Nouvelle-Zélande,
non,
en
quand il sera parti,
dans le monde à plus 4 degrés.
Non, mais en plus, je dis n'importe quoi parce que ça a augmenté le pouvoir d'achat des Finlandais.
Pas tous en même temps, là, en haut.
Les agriculteurs, ils ont peut-être vendu leurs terrains à des ultra riches.
Je mélange les réponses.
En fait. Dans le nord.
Mais je sais plus qui avait dit la fonte du permafrost dans le nord de la Russie, c'est une super bonne nouvelle.
Oui, parce qu'il
c'est des opportunités
des...
économiques.
Ah, mais c'est Poutine qui a
dit des gisements.
Non, non, mais c'est quelqu'un en France qui avait dit ça. Faut aussi regarder assumé. Le bon côté de la chose. Et Poutine l'a assumé.
Ouais, ouais.
Okay. Ah bah c'est ça.
Mais après, peut-être qu'en Finlande, des... ils ont trouvé des sources de je sais pas quoi, de gaz de je sais pas quoi.
Ah bah oui.
Ça répond pas à la question. Du coup, vos réponses.
La A.
Réponse A pour Usul. L'Inde et le Bangladesh ont fait la paix sur un sujet.
La B.
La réponse B, les Finlandais ont gagné du pouvoir d'achat.
La B aussi.
La B aussi pour Léa. Toujours la A.
Ouais.
Pour Marine Tondelier, le chat a voté pour la réponse A et c'est la bonne réponse. Bravo, absolument. Oui,
est-ce
oui,
que
oui,
c'était
oui.
La bonne explication.
Alors, depuis, je vais lire. Depuis 1981, l'Inde et le Bangladesh se disputaient une île située dans le golfe du Bengale, baptisée New Morro par les Indiens et South Talapati pour les Bangladesh. Mais le réchauffement climatique a réglé le problème avec la montée des eaux et l'érosion. L'îlot a simplement disparu sous les flots.
Ah, c'était un truc, un bruit qui s'est
bien
arrivé.
Vu, bien vu,
c'est
bien
comme
vu.
Quand il y a eu la Corée du Nord et la Corée du Sud avec le mur, là, il y a les 10 km de vide où ça a recréé. Il y a des espèces de types qui avaient disparu, qui ont réapparu du fait de la guerre et de ce no man's land.
La DMZ.
Voilà.
Bon, bah voilà, donc c'est la bonne réponse. Deuxième question de ce quiz à la con. Un jean, combien ça coûte?
Alors, la boisson ou
la blague, c'est un jean. Un jean, combien ça coûte? Réponse A, la consommation électrique annuelle d'un congélateur. Non, c'est vraiment un jean, hein, c'est pas... Voilà. La consommation électrique annuelle d'un congélateur. Réponse B, 285 si douches. Réponse C, 3 pleins de voitures. Réponse D, 3,99€ par mois si c'est Jean Massier. La blague est valide.
Moi, je dirais la B.
En équivalent, combien ça coûte un jean?
C'est le B en haut.
Ouais, en haut.
285 douches.
Je crois que c'est pire.
C'est combien une douche? Parce que moi je suis streamer,
ça dépend
pas.
Ça dépend
des douches.
Ça dépend combien de temps tu la prends en fait.
Et avec combien
le
de
truc
personnes.
C'est que ça peut être A, B et C. Oh. Non mais
ouais.
C'est fabriqué un jean, ça dépense de l'eau.
C'est vraiment la chercheuse.
Il y a aussi du pétrole et ça peut
et toi,
être
un jean
en
de merde,
usage des machines de l'électrique.
Un jean, la consommation annuelle d'un congélateur pour un jean, ça me paraît quand même beaucoup.
Ah non,
bah, franchement, c'est un désastre
c'est
écologique.
Des grosses machines.
Et la D est vraie aussi, c'est peut-être un jean pas cher que t'as acheté.
Ouais.
3,99€ un jean.
On a le droit de donner 4 réponses.
T'en as un par an et il coûte, tu vois.
Dans l'oreillette, on précise que c'est 35 litres une douche. Je vous remercie dans l'oreillette.
Donc, ABCD. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Non, mais il y a forcément une bonne réponse.
Moi, je jouerais.
Sur Shine. Ah oui, sur Shine. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on en pense, Léa?
Moi, je dirais la consommation électrique annuelle d'un congélateur en termes de coût environnemental.
Ok, d'accord. Réponse A pour Léa. Usul, t'en penses quoi? Tu restes sur la baie, toi?
Ouais, la baie. Ouais,
tu restes sur la baie, sur la douche?
Ouais.
Ok.
Ouais, pareil. C'est un équivalent en douche qui la donne souvent.
En équivalent en douche, d'accord.
Ah, pareil. Je reste sur ma première intuition.
Marine Tondelier, pareil. Le chat aussi répond réponse B à 77%. Et c'est la bonne réponse. Bravo. Bravo.
On est pas mal.
On est fort en écologie, nous.
On aurait dû parier d'argent.
Je vais montrer mon t-shirt Jadot. Voilà.
T'as vraiment vu ton t-shirt Jadot?
Alors, combien de douches pour produire ce t-shirt?
Je m'en souviens de ce visuel.
C'est vous, j'ai eu à votre siège.
C'est un produit très écologique.
C'est le maire.
D'ailleurs, le fait même que tu le réutilises montre.
Il écrit.
Ah, c'est le J, c'est le S. Le J, c'est le S.
Le S.
Ouais.
Et apparemment, vous n'avez pas tout liquidé le merch.
Non, on a des mugs aussi. J'adore, si vous voulez.
J'en ai deux chez moi maintenant.
Si vous avez besoin de pyjama.
N'hésitez pas à acheter sur la boutique.
C'est moi
de
qui les ai offerts d'ailleurs.
C'est possible.
C'était bien la réponse B. La production d'un jean consomme de 7000 à 10 000 litres d'eau, soit environ 285 douches à peu près. Une douche, c'est entre 25 et 35 litres. Ça consomme environ 43 kWh. Alors qu'un congélateur à l'année, c'est plutôt 300
kWh.
Et enfin, ça consomme 14 litres de pétrole contre environ 70 litres pour un plein moyen pour une bagnole. Donc, c'est très largement, effectivement, la consommation d'eau de 285 douches pour la production d'un seul jean. Mmh.
Bah nous, du coup, on peut se doucher. Enfin, on peut prendre des jeans parce qu'on se douche pas beaucoup, comme c'est pas très hygiénique. Bah,
voilà. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Puis on
il
peut
faut
se doucher.
Les mettre longtemps.
On compense.
On peut se doucher avec son jean. Troisième question de ce quiz à la con. Comment a-t-on su que la couleur préférée de l'empereur Néron était le vert?
Ah.
C'est un quiz à la con spécial écolo. Vous avez compris. Réponse A. Il avait une collection d'émeraudes. Réponse B. Il adorait les poireaux. Réponse C. Dans la course de chars, il soutenait l'équipe verte. Ou réponse D. La réponse A, B et C.
Waouh!
Il y a une histoire de course de chars et des couleurs.
Ça n'a rien à voir avec l'écologie,
oui,
là.
Oui, parce qu'il y avait une couleur du plutôt populaire et une couleur plutôt.
Les chars, c'est la version écolo.
Non, mais il y avait deux
des...
équipes de chars qui s'affrontaient avec deux couleurs.
Oui,
très,
il y avait vraiment
la
des couleurs.
La couleur du peuple et la couleur pas du peuple. Il faut lire les livres de Pastoureau sur l'histoire des couleurs.
Oui, ça devait être vert et rouge, parce qu'il n'y avait pas de bleu pendant l'Antiquité, en plus.
Oui.
Incroyable, on en apprend tous les jours. Ça répond pas à la question, mais, oui. Mais d'accord.
Peut-être,
okay. Néron adorait la couleur verte. Néron adorait la couleur... Moi, je dis Néron, candidat unique de la gauche en 2027. Non, j'en sais pas.
Oui, ça aurait du sens.
Oui, bien sûr.
Il était très bien vu de son peuple, par ailleurs.
Oui, oui, Néron. Et du coup... non, excusez-moi. Du coup, je relis la question pour ceux qui nous écoutent en podcast. Comment est-ce qu'on a su que la couleur préférée de Néron, c'était le vert? Réponse A, il avait une collection d'émeraudes. Réponse B, il adorait les poireaux. Réponse C, dans les courses de chars, il soutenait l'équipe verte. Et réponse D, les trois réponses précédentes, A, B, C et D.
Moi, je vais voter comme Marine. Je vais faire liste commune avec Marine Pondelier.
En fait, il a flairé que j'ai les bonnes réponses, donc maintenant, il est comme moi.
C'est elle, ma tête de liste des réponses.
Il est...
dans le chat. Ah, le chat a répondu réponse D. Ok.
Ouais, le chat se mouille pas ce soir, genre en mode.
Ouais, bah toi tu te mouilles, vas-y, c'est quoi la
ouais. Bah moi depuis tout à l'heure je perds, donc effectivement je me mouille parce que du coup je suis la voix dissonante, tu vois. Je prends des risques. Je ne fais pas comme les autres.
Vas-y, donne ta réponse.
Vous avez dit quoi? Non, on a dit C avec une.
Vous avez tous dit C?
Ouais.
Claire a parlé
ouais.
Non, moi je vais dire D. Parce que ça se trouve, il avait probablement une collection d'émeraudes.
Il mangeait certainement
des poireaux. Et les poireaux, c'est plutôt chouette.
Et quand t'aimes le poireau, t'aimes pas forcément la couleur vert, tu vois.
Non, oui, mais ouais, ça peut être... Ah, c'est ce qui a révélé, c'est vrai. Je vais rester sur la C.
Tu restes sur la réponse C,
Moi,
les courses de chars. Toi, tu dis la réponse A, il avait une collection d'émeraudes. Usul.
La C, j'aime bien les courses de chars. Et puis les poireaux, qu'est-ce qui nous dit qu'ils étaient verts à l'époque? Parce qu'avec les hybridations...
Je crois qu'il n'y avait pas de poireaux, d'ailleurs.
Ah bah voilà.
C'est bien possible.
Ouais. Et le chat a répondu réponse D. Quelqu'un a répondu réponse D autour du plateau? Non, personne.
Non, finalement, non.
Et bah, c'est le chat qui a raison, c'est bien réponse D. Eh ouais!
Donc, ouais. Quoi, et en elle n'a aucun sens, par contre.
La source a été donnée par Marine Tondelier. C'est effectivement l'historien Michel Pastoureau qui raconte dans l'histoire de la couleur verte. Il parle
incroyable.
De
donc, sur la
donne ses trois raisons.
On avait quand même raison. Mmh. Par des chars.
Vous aviez raison, mais c'était pas la bonne réponse.
Donc, il y avait déjà.
Il y avait des poireaux.
Des poireaux de couleur verte.
Très bien.
Il avait une collection d'émeraudes et il soutenait effectivement la couleur
Saint-Etienne,
verte.
Saint-Etienne, mais version verte.
Et il votait peut-être écolo. On ne sait pas. Quatrième question de ce quiz à la con. Lequel de ces mouvements écologiques existe réellement?
Oula.
Réponse A, le mouvement Mangeons nos déchets. Réponse B, le mouvement Buvons notre pisse. Réponse C, le mouvement pour la destruction des villes. Ou réponse D, le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité. Je précise que si quelqu'un connaît la bonne réponse autour du plateau, il est prié de ne pas la hurler. Il faut laisser les autres galérer. Lequel de ces mouvements existe
réellement? Les quatre seraient possibles.
Voir sa pisse quand même, ouais, d'accord. Okay.
Franchement, on est assez balèze pour créer les quatre.
Ouais. Doit y avoir des youtubeurs un peu chelous, dans la mouvance un peu ésotérique qui doivent.
Oui, bien sûr. Dans les sectes et tout, là.
Ouais, des mouvances sectaires un peu new age en mode buvons notre piste, c'est génial. Moi, je me nourris que de ça depuis 30 ans. Regardez, je fais très bien. Il doit y avoir des gens bizarres comme ça. Faire un mouvement.
Voilà, c'est ça.
Moi, j'ai fait les pisseurs volontaires. On pissait pour voir le taux de glyphosate dans notre urine devant un huissier.
Sympa.
Et on va parler des soupeurs.
Engagez-vous. On va pas parler des
soupeurs. Et il y a un mec qui était venu parce qu'il avait fait pipi dans son jardin en rentrant de soirée et que le lendemain, il n'y avait plus de pelouse là où il avait eu. Et c'était le gagnant du pire taux.
L'enfer.
Juste ça, c'était une anecdote comme ça. C'est pour vous dire que l'écologie, c'est pour la santé.
Et comment on se retrouve à avoir du glyphosate dans sa piste?
Parce que quand tu as du sur toi, si tu cours et ça se transporte.
Là, on a l'impression qu'il avait bu du Roundup juste avant de dormir, quoi. Mais non.
Et ben, en tout cas, quand il a vu sa pelouse le lendemain, il est devenu écolo en 30 secondes.
Oh. Ah bah ouais. Ah,
il a buvait pas par ailleurs, voilà. Donc ça va.
Non, bah vaut mieux pas visiblement. Ok, d'accord. Bon, d'accord. Bon, là, on est parti sur la piste, mais quelle est la réponse à cette question ? Lequel de ces mouvements écologistes existe réellement ? Est-ce que c'est le mouvement Mangeons nos déchets ? Est-ce que c'est le mouvement Buvons notre pisse ? Est-ce que c'est le mouvement pour la destruction des villes ? Ou est-ce que c'est le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité ?
Moi, je vais partir avec la A. Ça me paraît très probable.
Mangeons nos déchets.
Ça existe.
Tu peux le dire, Claire, tu en connais des membres de ce mouvement ? Tu veux nous en parler ?
Non, on a dit, on savait la réponse.
Tu préfères manger tes déchets ou boire ta pisse ?
Je sais pas.
Ça, c'est le tu préfères.
Vous avez 6 heures.
Ouais, carrément. Au moins.
Moi, je bois ma pisse. Hein. Enfin, non, mais pas quotidiennement, quoi. Mais si je dois choisir.
Okay. On peut clipper ça, c'est bon, c'est
fini. En fait, la question, c'est qu'aurait répondu Barbara Pompili ?
Qu'aurait répondu Barbara Pompili ? On lui posera la question.
Mais regardez,
litières, j'ai plus très envie de manger mes déchets.
Mais en fait, il y a tout ce truc autour de. En fait, il y a une grosse partie de ce qui est produit qui.
Gaspillage.
Voilà. Ouais. Et donc, il y a plein de gens qui vont récupérer dans les poubelles, notamment des supermarchés. Ouais. Des trucs qui sont encore totalement mangeables. Donc, en fait,
les cantines
c'est des déchets,
qui sont passées au bio local et gratuit, ils le payent en faisant moins de gaspillage alimentaire, d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils financent le...
T'as raison, et en même temps, je continue à trouver que tu intellectualises beaucoup trop le quiz à la con. Mais tu as raison. bon, vos réponses, allez. Le chat, il a voté quoi ? J'ai pas vu la réponse du chat. Et vous, autour du plateau, vous votez quoi ?
Moi, la D, parce que je trouve que c'est un truc un peu dans l'air du temps. Genre, l'humanité, c'est de la merde, de toute façon, on va tous crever, machin. Ça fait un peu ça, de toute façon, autant pas faire d'enfants. Moi, je veux pas.
C'est parce que t'as vu d'avant en spectacle que tu dis ça.
Hein ?
T'as vu d'avant en spectacle que.
Mémé, c'est un peu ta fille, non ?
Ils disent pas ça.
Ils disent pas ça.
Non.
Mémé, c'est pas un peu ta
fille. Oui, mais Mémé, je vais normalement.
Ils ont voté D, le chat.
Okay. Moi, je dis D parce que, en fait, il y a. Parfois, on dit, attention, il faut protéger la planète. Et en fait, la planète, il n'y a pas de problème. C'est l'humain qui est plutôt problématique. Et d'ailleurs, si l'humanité s'effondre. Pour le coup, la planète ira quand même mieux. Donc peut-être que c'est des gens qui veulent tellement protéger la planète qui disent...
Ah non, mais depuis tout à l'heure, il y a un axe Pondelier-Usul assez vénère sur ce plateau.
Usul, rendez-vous sur lesécologistes.fr.
Et jusqu'à présent, ça, vous avez trouvé plutôt des bonnes réponses. Mais donc là, vous dites tous les deux réponse D.
D.
Usul aussi. Claire.
Moi, je reste sur la A quand même.
Ok, ça divise la gauche. Donc la A. Léa.
Moi, je reste sur la B parce que du coup, je suis nostalgique de cette époque.
Le mouvement Vivons notre piste. Voilà, il y aura de la bière après.
On n'aura pas de forme D.
Ok, et le chat a répondu réponse D. Eh bien, c'est la bonne raison. C'est la bonne réponse.
On aurait dû parier du fric quand même.
Réponse D. Le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité est d'un mouvement écologiste qui appelle tous les humains à s'abstenir de se reproduire pour provoquer l'extinction progressive de l'humanité. Fondé en 1991 par les Unite. Il s'appelle Les Unite. Pardon, c'est un militant américain qui s'engage dans la mouvance écologiste dans les années 70 et en vient à la conclusion que l'extinction de l'espèce humaine est la solution idéale aux problèmes auxquels font face la biosphère de la Terre et l'humanité. Effectivement, c'est les années 70, le moment de la deep écologie aux États-Unis où il y avait effectivement des gens assez vénères. Ouais.
C'est très
mal fusionné.
L'avantage, c'est qu'avec la relance du nucléaire, on va y arriver.
Il y avait toute une embrouille sur Yves Cochet qui avait dit, qui était ministre de l'écologie il fut un temps, et qui avait dit en gros que c'était criminel de faire plus de 2 enfants. À l'époque où Cécile Duflot était secrétaire nationale, il y en avait 4 et elle avait assez mal.
Françoise Debonne avait une...
Et Yves Cochet, quand on lui demandait ce qu'il pensait de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2012, il répondait « La question ne se pose pas, la Terre existera plus en 2012 ».
Mais quand René Dumont montrait un verre d'eau en 74 en disant « Regardez bien, c'est précieux et bientôt on va en manquer »,
il avait raison aussi.
Dernière question, on est méga en retard. Dernière question de ce quiz à la con, oui. Lequel de ces pitchs de jeux vidéo existe ?
Ah ça, moi je suis Usul.
Je n'ai pas encore dit les réponses.
Excellent move.
Au lieu de construire une ville, transformer une terre stérile en une nature florissante. Réponse B. Incarner une vache qui monte un élevage intensif d'humains.
Oh yes.
Réponse C. Prenez le contrôle de l'océan pour recouvrir le plus de terres habitées possible. Ou réponse D. Speedrunner la fin du monde en créant l'industrie la plus polluante. Parmi ces 4 pitchs de jeux vidéo, lequel existe vraiment ?
Moi, celui auquel j'aurais envie de jouer, c'est le B.
Ouais, moi aussi.
Incarner une vache qui monte un élevage intensif.
Trop chaud.
Ouais.
Oh non, moi j'aime bien l'idée de la A quand même. Hein.
Je pense que c'est la A.
Construire une ville, transformer une terre stérile en une nature florissante.
C'est pas assez con.
Vous connaissez
c'est les Sims, quoi.
En fait, ce serait l'équivalent d'un City Builder.
Ouais, ouais. Stream, c'est colo, quoi.
Sur jungle, tu vois, tu construis ta forêt, tu construis ta jungle, tu choisis tes espèces et tout.
Ouais, parce qu'en fait, l'intérêt du city builder, c'est que tu vas construire une petite ville qui fonctionne comme un petit système. Mmh. Ça serait pas absurde de partir d'un truc stérile pour construire un écosystème et montrer les interdépendances, etc. Tu pourrais faire un gameplay là-dessus.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Donc moi, je veux le...
Ah, existera dans les semaines qui viennent.
Je sais pas si vous connaissez le jeu Plague. Qui est sorti avant le Covid et qui a eu un regard d'intérêt au moment du Covid. C'est un très très bon jeu de gestion et stratégie où on joue le rôle d'un virus et on a un but, c'est de tuer l'humanité. On doit progresser et donc on peut faire des mutations génétiques pour être moins facilement détectable, pour être aéroporté ou par les relations sexuelles. On a des attaques de l'OMS, on a des chercheurs qui font des progrès, donc on doit muter, on doit évoluer. Et c'est un super bon jeu qui s'appelle Plague. Et
C'est pas terrible non plus, mais enfin bon, bref.
Et ils l'ont vachement développé. Et moi j'ai beaucoup aimé l'époque, mais voilà.
Ouais.
Et ouais.
Je pense là, c'est le contrôle de l'océan.
Contrôle de l'océan pour recouvrir le plus de terres habitées possible.
Ça doit être un jeu très très immersif, populaire parmi le mouvement pour l'extinction de l'humanité là. Je pense que
c'est un peu déprimant, le truc de l'océan qui.
Ouais. Je vois pas le gameplay. Je vois pas comment tu contrôles l'océan.
Non, voilà. Non, c'est compliqué.
Alors que la vache, on voit bien.
Oui.
La vache, c'est trop stylé.
En vrai, le ouais, ok.
Bon, en tout cas,
donc toi, tu dis réponse.
Non, je dis la A.
Toi, tu dis réponse A. Au lieu de construire une ville, on transforme une terre stérile en nature florissante. Usul, ouais, t'avais l'air assez d'accord là-dessus.
C'est B ici.
Ouais, B.
Divorce,
Team B.
La division de la gauche est puissante. Le chat a voté quoi ?
Ce soit bien pour vous. Hein.
Le chat a voté réponse
Usul,
A.
Si tu reviens, j'annule tout.
Le chat a répondu réponse A et c'est la bonne réponse, évidemment. Le chat, le gamer, ils connaissent le jeu.
Voilà, fallait m'écouter.
Mais franchement, ça a l'air nul, hein.
C'est un jeu qui s'appelle Terranil et que le chat connaît effectivement. C'est un anti-city builder, effectivement. Se focalise surtout sur la construction de l'écosystème. Plutôt que de favoriser la consommation de ressources pour se développer, le jeu s'inspire de réensauvagement de la crise climatique et cherche à restaurer la nature plutôt qu'à l'exploiter.
Et s'il y a des gens qui trouvaient bien le jeu B et qui sont développeurs, vous pouvez me contacter.
Sur l'élevage intensif d'humains. Ouais, et sinon, il y a Satisfactory, qui est un jeu très connu que j'adore, où on a une nature florissante absolument géniale. Et le but du jeu, c'est d'extraire le plus de ressources pour construire la plus grosse usine possible. Et c'est un super. Un bon jeu.
Déjà tous les jours. C'est ça.
Merci beaucoup Marine Tondelier d'être venue sur le plateau de Backseat. Sous les applaudissements, Marine Tondelier.
Merci à vous.